I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, saison 2, votre rendez-vous, ouais c'est menaçant, je sais pas pourquoi, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma, et en l'an 2, plus de débats, peut-être, plus de respect, sûrement pas, et plus tout. Tout court, parce que nous, on est comme ça. Et aujourd'hui, plus de soca, puisque les débatteurs du jour sont les rois de la danse. Perrine Kenson, bonjour.
Salut Charline.
Et Renan Crowe, bonjour.
Soca représente, bonsoir à tous.
Et soca représente, je vous demande de saluer dès maintenant la jeune femme qui était derrière vous au cinéma, qui est venue vous saluer pour Next Episode.
Alors, on t'embrasse, on te fait un coucou, tu nous as reconnus au cinéma pour nos voix, et tu es notre fan numéro un, et on t'embrasse et on t'aime.
On aurait aimé avoir ton prénom, mais merci, merci beaucoup pour ce grand moment, et on est désolé pour la séance. On est désolé.
Merci madame. Ils sont donc venus nous parler de Justice, ou à défaut de Trial and Error, actuellement sur Canal+, série créée par Matthew Miller et Jeff Astrow. Et on en parle.
Objection.
Alors en fait, ce texte que j'ai écrit n'était pas... En fait, cette série, on en parle juste après l'info du jour et on va faire sobre maintenant. Viens voir le comédien.
Est-ce que les gens ont déjà éteint le podcast? Est-ce que ça coûte vraiment de continuer? Vous ne nous entendez plus. Bisous.
Après Shonda Rhimes, c'est au tour d'un autre poids lourd de la fiction de signer un deal mirifique. J'avais envie d'employer mirifique. Avec Netflix, mais dans un registre très, très différent, puisque c'est l'écrivain Harlan Coben qui aurait pas moins de 14 projets en chauffe avec le géant du streaming. Mais ne le dites à personne. C'est excellent. Tentez, pas tenté.
Alors moi, j'ai envie de faire une scène à la Harlan Coben. Non ! C'est ça dans Harlan Coben. Je déteste Harlan Coben, c'est nul. Toutes ces séries sont nulles. Vous avez vu Safe ?
Non, mais il y a Michael C. Hall.
Ça a été diffusé à la télévision, je vous rappelle.
Oui, sur C8.
Qui est une chaîne.
Ouais.
Ah bon ? Et c'est horrible.
C'est la chaîne de Nina. Hein.
Ah. Peut-être qu'il passait, il faisait une danse de l'épaule en milieu. Audrey Fleurot était obligée de faire une danse de l'épaule, elle n'en pouvait plus. Non, c'est vraiment pas bien, Harlan Coben. Il y avait un truc qui s'appelait The Five avant. Five, tout
court. Oui, il y a eu une série avec Alexandra Lamy dont j'ai oublié le titre. Une chance sur
un
deux.
Un gars, une fille.
Une chance sur deux. Là, je crois qu'il y avait un truc comme ça.
C'est pas l'embarras du choix.
Vraiment, ça ne marche pas, en fait, son écriture en série. Moi, c'est un roi du best-seller, tout ça. Voilà, c'est des page-turners, mais. Quand Guillaume Canet avait adapté Ne le dis à personne, en fait, il l'avait.
C'était bien,
il l'avait réécrit et surtout il l'avait refaçonné, rebricolé. Le problème, c'est qu'Harlan Coben, c'est très programmatique et ça ne tient pas la durée d'une série de télé, en tout cas tout ce qu'on a vu. Autant de projets avec Netflix, et Netflix, les gars, mollo molito sur les auteurs, quoi.
Mollo molito.
Et là, je lance une tendance. Hashtag mollo molito.
Mollo molito morito.
Mollo molito morito. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde et en fait, ils vont leur faire faire des milliards de projets. Puis c'est comme les bébés tortues qui naissent, il y en a la moitié qui vont mourir, donc la moitié de ces séries va mourir et on n'aura que le meilleur.
Wow.
Beaucoup d'analogies dans une seule phrase.
C'est dark, non, aujourd'hui.
Parce que ça fait du mal ce que tu dis sur les bébés tortues. Chaque fois que je vois un truc, ça me fait chialer.
Enfin, bah,
donc je rappelle qu'on est parti d'Harlan Coben, qu'à la base on est censé parler de Trial and Error.
Mais on est bébé tortue.
Et ben du coup, on va le faire maintenant. This March, America's next great crime series begins. I did not kill my wife. I mean, back in the day, I was known as a lady killer. Oh, yeah. Do I think Larry did it? Absolutely not. What are these stripes? Those are Larry's roller skating tracks, sewer blood. I have a great legal team. We need to come up with a plausible story based on the evidence. Birds. Should I write it down? Je lisais donc la saison 2 La saison 2 est donc actuellement disponible sur Canal+. Et pour les débuts, on revient à la genèse. La série raconte l'arrestation et le procès d'un professeur de poésie dans une petite ville de Caroline du Sud, accusé d'avoir assassiné sa femme. Un jeune avocat venu du nord du pays est engagé pour le défendre. À vous maintenant.
Eh bien, ça c'était la saison. Ça c'était la saison.
Oui, mais je repitche pour ceux qui auraient. Ouais. Parce que je ne vous cache pas qu'en fait vous m'avez dit on fait Trial and Error. Alors, et je vais cette série.
On parle tout le temps comme ça, ce qui est hyper relou. Salut, comment tu vas? Ben, moi ça va. Voilà, c'est un peu chiant pour les gens. Les gens nous détestent, on est seuls. Et c'est pour ça que tu viens nous faire parler dans le micro, mais c'est la seule fois où on parle à d'autres personnes.
C'est une émission factice, les gens n'écoutent pas vraiment. Donc, alors,
il vient nous chercher à la fin.
Je repitchais donc la saison 1 pour ceux qui l'auraient raté. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série ?
Eh bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que je trouve que c'est le parfait mélange entre American Vandal et Parks and Recreation. Ouais. Avec une dose supplémentaire de folie. J'ai envie de dire, c'est de la folie en fait, la folie pure et dure, mais de la douce folie.
C'est-à-dire que là, t'as pitché le début qui fait une série très sérieuse. En fait, c'est au départ une.
On entend quand même.
Oui,
le
son,
phrasé
bon,
est un peu étrange. Hein.
Mais en fait, c'est une parodie au départ quasiment d'un documentaire de Jean-Xavier de Lestrade qui avait cartonné The Staircase. The Staircase en anglais, je sais. Bon, bref, il y a Wikipédia, les gars, vous bossez un peu. Donc, un documentaire de Jean-Xavier de Lestrade. Et c'est vraiment une parodie. C'est-à-dire que ça reprend le meurtre donc, de cette femme par ce professeur. Et donc, on a toutes les étapes de ça, mais tournées en ridicule. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous mettez un pied dans la série, où vous êtes quelqu'un de cartésien et vous aimez les choses logiques et vous aimez les choses qui ont du sens, vous pouvez tout de suite éteindre votre télévision. Si vous aimez l'humour de merde et donc vous écoutez ce podcast, évidemment, eh ben c'est pour vous, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord, en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'au contraire, c'est-à-dire que ça paraît être le monde des Looney Tunes, ils sont complètement tarés à l'intérieur, mais en même temps... Le procès, l'enquête, elle à chaque fois, elle c'est un vrai cluedo, c'est que ça grandit vraiment de manière logique.
C'est alors, le génie de la série, c'est-à-dire de tenir les deux fils en même temps. C'est une enquête et c'est con. C'est une enquête.
Une conquête. Non, mais en fait, c'est un monde. En fait, quand on pénètre dans Trial and Errors, on rentre dans un univers à part qui est East Peck, qui est donc la ville où se passe donc cette affaire et l'affaire de la saison 2, parce que c'est deux affaires différentes à chaque fois. Et on découvre, comment dire, c'est comme si on allait dans une petite ville. De province qui a ses propres traditions. Et je dis ça en connaissance de cause parce que, en fait, je me dis.
Parce que tu es une tradition d'une ville de province.
Non, mais je me dis, par exemple, il y a tout un truc dans la série où, par exemple, on leur dit c'est l'avocat qui vient de New York, qui donc enquête sur cette histoire, dit c'est une affaire à la David contre Goliath. Et les autres sont là, genre, pardon ? Ils font si David contre Goliath, enfin le voilà, il fait David contre Glenn, donc ils ont leur propre univers à eux.
Et à chaque fois, on nous par exemple, c'est une ville où on tire encore des boulets de canon.
Oui,
il n'est pas étonnant que tu
sonner
reçois.
L'heure.
On sonne à l'heure.
Ok, c'est les Monty Python en fait.
Il y a un truc de ça,
mais c'est les Monty Python.
La meuf qui a décidé d'être désagréable. Ok, super.
Non, mais c'est ça, je pense que c'est l'humour des Monty Python avec une couche supplémentaire. C'est-à-dire, les Monty Python, c'est absurde et c'est enfermé dans le bureau des marches débiles. C'est-à-dire que c'est vraiment. Ouais. C'est étiré sur un univers. C'est-à-dire que c'est poser des règles dans un univers et faire en sorte que, une fois que cette règle, elle est posée.
Mais c'est logique.
C'est logique. C'est-à-dire qu'on nous explique, par exemple, donc, dans la ville, il y a une règle qui veut que les femmes n'aient pas le droit de conduire. Et il y a eu une dérogation en 1900, je sais plus combien. En fait, une femme peut conduire si devant elle, il y a un type avec un drapeau qui prévient qu'il y a une femme qui conduit. C'est débile, c'est con. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la séquence, on fait « c'est con ». Sauf qu'à partir de là, à chaque fois qu'il y a une voiture et qu'il y a une femme, même au quatrième plan qui passe, il y a un mec qui fait « Lady Driver ». C'est hyper drôle.
Et en fait, c'est ça, c'est qu'on intègre complètement.
Je vois Charline qui fait des mots en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette série ?»
Non, pas du tout. J'essaye de rendre vos propos lisibles. Bon, je me dis pour l'instant, c'est pas gagné, mais je tiens bon.
Mais on intègre vraiment des règles dans... En fait, c'est très dur d'expliquer pourquoi c'est drôle en vrai, Trial and Error. C'est-à-dire que c'est pas un humour où on pourrait dire genre cette réplique, elle était très drôle, ou oh là là, il y a une scène à un moment donné, c'est vraiment drôle. Non, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où on a ces règles qui se mettent en place, ça, on développe nous-mêmes une logique où on se dit, tiens, ça va être drôle parce que ça fait référence à tel truc qu'on a vu beaucoup plus tôt. Et en fait, c'est-à-dire qu'on a des...
C'est des running gags.
Ouais, c'est des vrais running gags. Enfin, c'est-à-dire, genre, comme le jour de la marmotte, et eux, ils ont le jour du mousse. Ouais.
Et donc, une saison, un cas.
Ouais, pour l'instant, donc la première saison, le personnage guest, c'est l'acteur John Lithgow, qu'on a vu pas mal chez Brian De Palma.
Tu dis Lithgow, toi ?
Ouais.
J'ai Lithgow, non ?
Alors, dans la série, ils te disent Lithgow, parce qu'à un moment, il y a une blague sur une Lithgow. Enfin bon.
Oui, voilà, des blagues comme ça aussi. Et dans la deuxième saison, c'est, j'ai oublié son nom, cette actrice géniale de comédie musicale. Ah la vache, on fait pas bien notre boulot.
Christine Chenoweth.
Christine Chenoweth.
Chenoweth.
Je ne sais pas. C'est Novitz, hein.
Ah bon,
voilà. Et qui, donc dans la première, donc c'est ce type qui est donc accusé du meurtre de sa femme. Et je vous promets que dans les deux premiers épisodes, vous vous dites, ok, ça va pas tenir deux minutes et tout. Et au bout du quatrième, vous vous dites, mais qui a tué cette femme ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Je vous jure que la résolution est le truc le plus drôle que j'ai vu depuis très très longtemps.
Mais c'est assez. Alors du coup, attends, John Lithgow joue le mec qui est accusé de meurtre.
Ouais. Ouais.
Le mec qui est quand même le plus grand tueur de Dexter,
bah évidemment.
Ça joue quand même sur des codes. Sur des codes
Et surtout, il est fan de roller. Il fait des rollers tout le temps et c'est vraiment absurde. Et je vous jure que la résolution que vous avez donc à la dernière épisode de la saison 1 c'est tellement drôle, c'est tellement bien vu. C'est aussi une parodie aussi du système judiciaire américain, ouais, de la télévision, puisque en fait c'est un faux documentaire, hein. C'est-à-dire qu'on suit ce jeune idéaliste avocat qui est en fait un teubé, c'est un gentil teubé, mais
Nicolas D'Agosto.
Ouais, il est très drôle parce qu'il a une espèce de sourire bright et il, ouais, s'en prend plein la gueule, mais vraiment, il se prend des tartes. Il est donc face à une procureure. Comment on pourrait dire, c'est une procureure nymphomane sadique, c'est-à-dire que
oui, nymphomane sadique et très carriériste.
Et très carriériste.
Et très carriériste.
Qui est vraiment hilarante. C'est vraiment des personnages complètement fous. Et dans la saison 2...
Non, t'as oublié de parler de l'équipe parce qu'il a quand même une équipe d'enquête avec lui pour dans son cabinet qui se tient dans un cabinet de taxidermie, hein, faut le dire aussi, parce qu'il ne pouvait pas aller ailleurs. Et il a une.
Je sens Charline de plus en plus dubitatif.
Non, j'ai juste une question, jeune, si vous nous écoutez, évidemment, ne reproduisez pas. Vous avez pris de la drogue.
Mais c'est exactement l'effet de cette série.
Donc
okay. on a une assistante.
C'est mal, hein, je le rappelle, je le redis.
On a une assistante qui ne reconnaît d'ailleurs pas le visage des gens.
Elle a une maladie à chaque épisode, cette assistante.
Oui,
a un trauma. Donc, par exemple, dans un épisode, elle n'ouvre plus les yeux. Elle dit voilà, ça m'arrive de temps en temps, je n'ouvre plus les yeux.
Ou elle lève la main sans raison, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à l'armée pendant 3 ans. Enfin,
ou alors, quand elle a une grande émotion, elle s'évanouit. Et donc, ça donne des moments.
Ou elle rigole quand il faut pleurer.
Ah oui, elle rigole quand il faut pleurer, c'est un grand moment où il découvre un cadavre et elle est pliée de rire. Et c'est tellement débile. Vraiment, mais regardez ça, faites-vous du bien, c'est tellement
et
drôle.
Et il y a Dwayne, cette espèce de consanguin absolu extraordinaire.
Ouais, qui fait partie de la police, qui fait un peu penser au personnage dans Scary Movie.
Exactement.
Voilà, qui s'appelait Doui ou un truc comme ça. Et c'est vraiment la quintessence du débile. Et il est extraordinaire. Et notamment, c'est pour ça qu'on chantait ça, il y a un tableau qui est donc le fameux murder board. C'est les tableaux, vous savez, dans les séries où ils tissent des fils, ils font des trucs.
Ouais, pour faire voir comment progresse l'enquête.
Le coupable, machin. Ouais. Et le tableau est toujours débile, saccagé par les mecs. C'est, voilà.
Et à chaque fois qu'ils le voient, ils sont tous là en train de dire murder board.
Et ils font des danses et tout. C'est hilarant. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que plus ça avance, plus l'intrigue en fait est épaisse. C'est-à-dire que ça pourrait être une succession de gags à la con, et en fait, au bout d'un moment, on aurait dit bon, non, c'est qu'en fait, on veut vraiment savoir qui a fait le coup. Et à chaque fois, ils tiennent le jeu. C'est-à-dire que dans la saison 1, vraiment, la résolution est géniale, mais dans la saison 2, où là, en fait, il est censé défendre l'espèce de première dame de la ville, qui est une sorte de starlette incroyable, où tout le monde l'adore. C'est-à-dire que quand elle arrive dans le tribunal, tout le monde se lève. Et donc voilà, il y a un truc où elle chante.
Elle chante parce que c'est l'actrice qui est jouée dans Glee notamment, ouais, parce qu'elle a une voix, Christine Nouchinowitz, ouais, on va pas débattre là-dessus, mais juste elle a une voix.
Chris, appelons-la Chris. Ça se fait.
Christou.
Christelle.
Elle a une voix comme ça qu'on reconnaît tout de suite.
Christina. Mais je sais pas.
Christiane.
Christian.
Big up à tous les Chris. Alors, et donc, elle a une voix incroyable et surtout, elle chante les hymnes de la ville.
Qui durent 18 minutes, 25 minutes.
Voilà, avec des.
Un peu à la Céline Dion. Ça me paraît fou. Et non, mais ce qui c'est fou. Mais ce qui est assez fort en plus, c'est que. Pas y arriver. C'est que c'est
alors
très
vous
émouvant.
Vous qui nous écoutez, à tout moment, vous pouvez faire des pauses hein, dans ce podcast. Et surtout, si vous arrivez à comprendre quoi que ce soit aux propos qui sont tenus aujourd'hui,
envoyez-nous.
N'hésitez pas à nous le faire savoir sous le hashtag MoloMolito. Reprenons, à la vie.
Et bien, effectivement, il y a une scène. Pour, parce qu'on est quand même. Il y a une scène où elle chante l'hymne national de la ville. Et ça dure,
25 minutes.
Ça dure 25 minutes. Mais pas la scène de 25 minutes, c'est qu'on voit, on a des cuts. Ouais. Mais c'est tellement drôle.
Ça se voit sur la tête du personnage de Nicolas D'Agosto, ouais, qui est le seul type relativement normal de cette histoire, ouais, mais qui justement, lui, va tomber amoureux un peu de cette ville et des gens, parce que c'est ça aussi la force de la série, c'est que si c'était que des gags et que du lol comme ça en permanence, qui n'a aucun sens.
Personne ne dit que du lol.
Que
tu viens d'être rejeté de la cool attitude.
Hashtag MoloMolito, je le rappelle.
Molito sur le lol.
MoloMolito, les gens, sur le lol.
T'es tellement 2003, t'es so whiz. Mais je veux dire, voilà, si c'était que ça,
je suis un album de Linkin Park. En fait.
C'est bien Linkin Park, t'aurais dit.
C'est un autre débat. Donc, du coup, Trial and Error, saison 2, scène où elle chante.
Non, ce que je veux dire, c'est quand, soit si la série n'était que de la blague, ça serait pas si intéressant. Ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à créer des personnages qui sont touchants. C'est qu'on est vraiment attaché à eux. Et ouais, notamment dans la saison 2, il se passe, je ne raconterai pas pour les gens qui voient, mais il se passe quelque chose, notamment avec ce personnage de Nicolas D'Agosto, qui, moi personnellement, m'a même tiré les larmes, parce qu'en fait, c'est clairement, il y a une dimension comme dans Parks and Rec, où c'est tous des gentils lunatiques, enfin, ils sont tous un peu fous, et ben d'un seul coup, on s'attache sincèrement à eux, contrairement à d'autres séries plus récentes dont on a parlé.
Ça fonctionne sur une espèce d'empathie à la débilité. C'est-à-dire que, en fait, ce type qui se trouve dans un monde qui n'a aucun sens, où vraiment ça n'a aucun sens, il y a des trucs débiles.
Il y a une règle à chaque fois inventée sur des trucs, mais ça n'a pas de sens. Quoi. Enfin,
par exemple, il vous explique dans la ville que pour déterminer s'il y aura des samedis ou non dans la ville, il faut que qu'un élan voit à un jour précis son haleine. Et alors, ils sont comme ça, tous devant la télé, en train d'attendre que l'élan regarde son haleine. C'est...
Pardon, c'est Quentin, toi qui réalises cette émission, c'est une caméra cachée en fait.
Salut, c'est une blague en fait. Oh non.
Pardon, allez-y, reprenez. Donc l'élan, le...
Et c'est tellement drôle.
Et c'est ça qui détermine s'il y a des vendredis ou des samedis.
Et donc, c'est drôle.
Mais sauf qu'en fait, ça a du sens dans l'histoire.
Et sauf qu'à un moment, ça a du sens.
Est-ce que cette émission a du sens à un moment.
C'est tellement drôle, vraiment.
Non, mais vraiment. Mais rien que de le raconter, on a envie de... Enfin, voilà. C'est là où c'est très... un petit peu renfermé. C'est-à-dire que si on ne regarde pas la série, c'est très dur de communiquer pourquoi c'est drôle, en fait.
Mais déjà, c'est très dur de communiquer avec nous.
Je suis de très mauvaise foi. C'est ce que vous racontez est très, très, très drôle. Juste une question. La série est diffusée en France sur Canal+, et aux États-Unis c'est une série NBC qui est quand même, rappelons-le, un gros network, des séries de gros networks.
Elle a essayé, en fait, à mon avis, sous l'influence de The Office, de tous ces trucs-là, de faire son mockumentary, Et en fait, bon, on a appris là qu'elle ne renouvellerait pas la série sur NBC, en tout cas pour une saison 3, et que les producteurs de la série essayent de trouver un autre endroit. Je pense qu'ils sont un wink-wink sur Netflix, c'est-à-dire « Hey, Netflix, regarde, on est cool, on est drôle. » Mais... En fait, ce qui est assez génial, c'est que donc là, la saison 2 s'est terminée, elle est en intégrale disponible sur MyCanal, et vraiment, à la fin, on a envie que ça continue. On a envie de retrouver ces personnages, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, et surtout d'un nouveau cas. C'est-à-dire, c'est une anthologie aussi, c'est chaque saison.
Oui, bien sûr.
Mais à chaque fois, on est toujours dans la même ville, les rivalités entre les Hispec et...
Les Pecs et les Rides.
Et les Pecs et les Rides, enfin, c'est vraiment un univers... ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série où vraiment c'est un univers entier, on est dedans avec eux, on a envie de savoir ce qui va se passer, et puis surtout, c'est une série où je ne sais jamais ce qui va se passer. Notamment là, dans la saison 2, il y a à chaque fois un tournant au milieu de saison, dans la saison 1 et dans la saison 2, qui complexifie les rapports des personnages, et qui surtout dit quelque chose de la justice américaine, qui dit quelque chose du système économique, des petites villes. Moi, je trouve ça assez brillant. Mais surtout, qu'est-ce que c'est con et qu'est-ce que c'est drôle. C'est surtout ça, en fait.
Oui, mais c'est d'autant plus gonflé, je trouve, et risqué.
Je pense qu'ils ne se sont pas trop rendus compte.
Deux saisons, c'était miraculeux, déjà, non? Enfin, puisque vous m'en racontez, ça me semble quand même sur une grosse
chaîne comme ça. Parce qu'elle reste encore assez obscure, dans le sens où il y a vraiment peu de gens qui ont... C'est pas une série qui a fait la une de tous les journaux.
Ouais, mais j'en suis la preuve, quoi. Quand vous m'avez dit, je le rappelle, « Oh, faites, venez, venez !»
Qu'est-ce que c'est que cette imitation scandaleuse?
Oui, parce qu'on était un peu plus cheerful quand même.
Mais par mail,
surtout, l'addition était mieux.
C'est dur à dire,
Trial and Error. Tu ne t'entends pas parler, en fait. C'est le principe des gens qui s'entendent dans leur tête.
Quelle violence.
Voilà, donc vous nous avez donné très très envie, enfin pour peu qu'on ait...
Je peux vous donner un dernier argument. À un moment, il y a un personnage qui est donc prisonnier qui explique les bienfaits de faire l'amour à une machine à café. C'est un grand moment.
Faites entrer Marcel Béliveau maintenant. Ou alors, du coup, envoyez les recos avant qu'on se quitte.
La reco qui est, à mon avis, celle qui ressemble le plus à ça, c'est une série Netflix qui s'appelle American Vandal, qui était un peu mon chouchou, cœur, bisou de l'année 2017, qui était ma série un peu préf de l'année. C'est donc pareil, un faux documentaire autour d'un problème essentiel de savoir qui a dessiné des zizi sur des voitures. La saison 2 arrive le 14 septembre, c'est-à-dire là. Et la nouvelle saison 2 parle notamment d'un personnage qui s'appelle The Third Bastard, c'est-à-dire le bâtard du caca qui
bâtard de merde éventuellement.
Et qui produit des gastro inopinés à tout le monde, et la bande annonce, rien que la bande annonce, je pleurais de rire puisque c'est raconté avec énormément de sérieux, et qu'on voit une religieuse dire, c'est à ce moment-là que les flots se sont ouverts, et voilà, ça m'a beaucoup fait rire. American Vandal saison 1, American Vandal saison 2, jugez-moi, rien à foutre.
Non, mais donnez-lui du pipi, du caca, il est
fort. Non, ça c'est ça, il y a du vomi sur toi.
Périne.
Ben moi, je vais mettre une autre série Netflix dont la saison 3 arrive à la fin de septembre, fin septembre, si je dis pas de bêtises. C'est The Good Place. The Good Place recommence fin septembre. Et elle est diffusée en même temps sur Netflix et sur, j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais plus le channel.
Oui, vraiment.
Et mes résultats, enfin.
Épisode par semaine.
Un épisode par semaine, mais ce qui est bien avec The Good Place, c'est que c'est une série de Michael Schur, et qui a eu beaucoup de mal à démarrer, mais ce qui me fait penser par rapport à Trial and Error, c'est que aussi dans The Good Place, on est dans un univers dont les règles se définissent au fur et à mesure, qu'on découvre au fur et à mesure, avec des personnages attachants, une espèce de folie latente constante, et des shifts, au bout d'un moment, il faut juste comprendre que le monde va tourner en permanence, qu'il va se rebooter tout le temps. Ce qui est aussi un petit peu le cas de Trial and Error, qui se permet de se rebooter à des moments. Donc c'est pour ça que c'est pour moi très proche avec cette idée de grain de folie et c'était une série qui est vraiment très chouette.
Puis c'est deux séries qui ne sont jamais prévisibles, on ne sait jamais où elles vont.
Non, parce que justement, comme elle a cette capacité de se rebooter et d'inventer des règles au fur et à mesure qui deviennent d'un seul coup qui se créent comme une constitution et à la fin on pourra en tirer un bouquin quoi.
Et d'être étonnamment sérieuse à un moment.
C'est-à-dire oui, que... Et puis d'avoir vraiment des moments d'émotion, ouais. C'est ça qui est vraiment très fort dans les deux.
Je ne vous cache pas qu'à l'issue de cette émission, je suis épuisée. Le mot est faible. Je rappelle donc que si vous avez compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous en parler sous le hashtag Molo Molito. Molo avec deux L et Molito un seul, hein, évidemment.
Et pas Molo Molitor, ce qui n'a rien à voir.
Car c'est une piscine. Molo Molito, blague de Parisien pourri, ça suffit. Même moi, je m'auto-épuise. Donc merci Renan Cros, merci Karine Kenson.
De rien, Charline toujours là pour une vanne.
Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain. Bah peut-être, après celle-là, c'est terminé. Hein. Même heure.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.